Oh, nous nous sommes demandé si entre l'habitus acquis de sagesse et la sagesse don du Saint-Esprit, il devait exister un habitus infu de sagesse ayant même objet que la sagesse acquise. Ça résume bien. Ce dernier serait l'analogue à la vertu infuse de religion. Cet habitus infu ne serait-il pas le don de science? Alors j'ai dit non. Tout de suite. Cet habitus infu ne serait-il pas le don de science? Cet habitus porte en effet sur ce qu'il faut croire. Cet habitus, c'est-à-dire le don de science. Il inclut donc, parce que cet homme ne parle pas de l'habitus infu, de sagesse. Donc, il inclut donc le préambula fidei. Or, il nous donne de connaître Dieu par le moyen des réalités créées. En définitive, le don de science nous donne de juger avec certitude sur ce que nous pouvons connaître selon la sagesse naturelle. Très bien. Mais la seule difficulté, c'est que ce n'est pas le même objet formel. Mais le raisonnement, c'est très intéressant. Parce qu'au point de vue objet matériel, il y a coïncidence, c'est vrai. Mais demandons-nous sous quelle ratio formalis on connaît cela. Nous pouvons connaître les préambula fidei, ou d'une manière, voyez, ou par le point de vue, le don de science, c'est toujours par la charité. Toujours une connaissance affective, expérimentale, par la charité. Et c'est la charité qui joue ce rôle particulier de déterminer ces connaissances de tous les dons. Tandis que s'il existe un habitus infus de sagesse, je dis s'il existe un habitus infus de sagesse, je crois fort qu'il existe. Plus j'y pense, plus je crois qu'il existe. Et ça m'étonne qu'on n'en ait pas parlé. Et ce serait très intéressant de étudier de près. S'il existe un habitus infus de sagesse, il porte sur les mêmes objets, je suis d'accord, comme la sagesse acquise, mais il est un habitus infus quant à l'exercice, mais pas quant à l'aspect de sa détermination. Donc, distinguons bien, pour que vous voyez mieux, le don de science, l'habitus infus de sagesse. Au point de vue de la cause efficiente, au point de vue de la cause efficiente, tous les deux viennent de Dieu. Tous les deux viennent de Dieu et sont le don de science, je dirais, procède directement de la grâce et directement de la charité. L'habitus infus de sagesse procède aussi d'une certaine manière de la grâce. On peut dire. Je crois qu'il n'est pas donné à quelqu'un qui n'aurait pas la grâce. Oui. Donc, cette cause efficiente, c'est bien une cause surnaturelle. Pas seulement préternaturel. L'analogue avec les vertus infuses. Les vertus infuses proviennent de la charité. Et donc, c'est vraiment cause surnaturelle. Donc, au point de vue de la cause efficiente, je suis d'accord, il y a une similitude entre les deux. Comme tous les habitus infus. Mais ce qui m'intéresse, c'est la distinction de la ratio formalis objectif. Quelle est la ratio formalis objective du don de science et de cet habitus infus de sagesse? La ratio formalis objective du don de science, c'est à travers la charité, c'est à travers l'amour, c'est dans l'amour que je saisis ce que représente tout ce qui me conduit vers la vérité. Tandis qu'au contraire, la ratio formalis objective infus de la sagesse, ce n'est pas par la charité. Ça ne donne qu'une nouvelle efficience, les vertus juives.
Saint Thomas semble dire que l'acte d'une vertu morale infuse et l'acte d'une même vertu morale acquise diffèrent spécifiquement, et ceci par les raisons propres, raisons formelles de l'objet.
Par raisons formelles de l'objet, d'accord, mais les dons du Saint-Esprit, c'est plus. Les dons du Saint-Esprit donnent un exercice nouveau qui est en connaturalité avec la charité.
C'est déjà la vie du Saint-Esprit, c'est une nouvelle détermination.
Oui, une nouvelle détermination, parce que c'est ordonné à la fin ultime, à la fin surnaturelle. Dans le don de science, il y a quelque chose encore plus. Il y a la ratio forme. C'est pour ça que je dis, je prends bien la ratio formaliste objective. Que cette ratio formaliste objective, vous voyez, soit distincte de l'habitus acquis de sagesse. Hein, c'est ce que vous dites, que les habitus infus sont distincts. Pourquoi? Parce qu'ils ont un ordre vers une fin surnaturelle.
Il n'a pas uniquement cette raison-là.
Hein, vous avez une référence exacte?
Oui, dans question 63, le cas de la province secondaire, il se distingue de deux façons, selon les raisons spéciales et formelles des objets, ceci pour les vertus morales. C'est la règle de la raison humaine qui règle la vertu. Pour la vertu infuse, c'est la règle de la raison humaine. Et il dit qu'il y a une deuxième distinction selon ce à quoi elles sont ordonnées. D'un côté, les réalités humaines, de l'autre côté, la béatitude. Donc il n'y a pas uniquement le point de vue de la fin, il y a le point de vue aussi de la détermination.
Mais c'est le point de vue de la fin qui prime. Et le point de vue de la détermination, c'est en fonction de la fin.
C'est d'accord.
Vous voyez, c'est ça. Alors c'est ça qui m'intéresse. Pour préciser ici, comme c'est un corps particulier. Ça demande des vertus infuses, avant tout des vertus infuses qui sont dans l'ordre moral. Vous voyez ? Ici, il y a un cas tout à fait particulier, c'est qu'on est en face d'un habitus infus de sagesse qui, elle, est dans l'intelligence et qui n'est pas l'intelligence pratique. Vous voyez ? C'est ce qu'on sent là, je crois qu'il y a quelque chose de propre et de différent. Si cet habitus existe, je crois qu'il y a quelque chose de profond.
Et on constate l'objection que vous pouvez faire pour toi, tomberait dans la mesure où on regarde la sagesse, qui considère l'objet qui est capable d'atteindre l'intelligence humaine. Est-ce que la détermination ne changerait plus entre l'habitus infus et l'habitus humain?
Ce qui veut dire que celui qui aurait l'habitus acquis n'aurait pas besoin de l'habitus infus.
Oui,
les objets qui veulent être.
Est-ce qui veut dire que quand il aurait la grâce,
non, non, parce qu'il y avait toujours l'ordre à la fin surnaturelle. Oui, c'est ça qui est très délicat, c'est très difficile. Hein. Je suis d'accord que ce n'est pas commode. Hein. Et je prends ça. De toute façon, ce n'est pas le don de science. Et ça ne peut pas être le don de science. Parce que le don de science, les dons, c'est du côté de la manière d'exercer. D'exercice. Et l'exercice est en comme naturalité avec la charité pour permettre à l'exercice du don de science d'être, vous voyez, d'être au même niveau que son objet, donné par le point de vue de la charité. Donc, c'est sûrement pas le don de science. Alors, c'est la première chose que je... Oui.
Saint Thomas dit tout de même qu'on connaît Dieu, on connaît d'abord l'aide qui a été créée, et on connaît Dieu quand elle vient de l'aide qui a été créée.
Oui, exactement, parce que c'est don de science et non pas don de sagesse.
Oui, c'est ça.
Mais tout à fait, mais ça, ça n'a pas d'importance. Je prends du côté d'exercice. Et non pas du côté de l'objet. Je prends la distinction de la ratio formaliste objective du don de science et de la sagesse, c'est parce que justement, Saint Thomas distingue toujours science et sagesse, et il la distingue du côté de la ratio formaliste objective. Vous voyez ? La sagesse, la connaissance de sagesse fait qu'on atteint immédiatement la fin ultime, et dans la lumière de la fin ultime, on juge toute chose. Tandis que la science fait qu'on commet des principes propres. Donc, il y a une différence du côté de la ratio formaliste objective entre ce que représente le don de science et la sagesse. Parce que la sagesse et la science, c'est quand même deux habitudes différentes. qu'il soit infus ou pas infus, ça va toujours la même distinction, c'est que l'un c'est par les connaissances, par les causes propres, et l'autre c'est par les connaissances de la cause ultime. Tu vois la distinction pour un saint homme à la suite d'Aristote. Oui. Donc première distinction. Deuxième distinction. On viendra après sur la question habitus infus, habitus acquis, c'est autre chose. Deuxième distinction, c'est que du côté de l'exercice, l'exercice du don, il a un mode divin. Il a un mode divin et il essaie de faire que grâce au don de science, il y a quelque chose, la science infuse, grâce au don de science, la foi. C'est la matière. Hein. D'accord. Au point de vue de la matière, on peut dire qu'il y a une petite ressemblance.
Mais matériellement, ce serait le même objet que le don que la Bible a pu.
Non, non, parce que c'est atteint autrement. C'est pour ça que je dis qu'il y a la ratio formaliste qui est différente. Même si la matière commune est la même, preambula fidei, même si la matière est la même, la ratio formaliste est différente. Parce que les preambula fidei sont atteints ou selon un mode de sagesse ou selon un mode de science. Il y a un ratio formaliste objectif différent. Deuxièmement, l'exercice est différent parce que c'est un mode divin lorsqu'il s'agit des dons et que lorsqu'il s'agit d'habitus infus, il ne donne pas ce mode, cet exercice divin. C'est-à-dire qu'au-delà des vertus infuses, il faut les dons. Alors, je dirais qu'il y a deux distinctions. Alors, c'est beaucoup plus subtil, et là, je suis tout à fait d'accord. C'est très subtil d'avoir la différence entre l'habitus infus de sagesse et l'habitus acquis de sagesse. N'est-ce pas ? Quand il s'agit des vertus, parce que les vertus sont du côté affectif, toujours ce côté affectif qui modifie. Du côté des vertus, vous avez donc, prenons la vertu de religion, parce que je crois que c'est la vertu de religion qui nous intéresse ici. Et la vertu infuse. De religion. La vertu de religion a comme acte premier l'adoration, comme acte fondamental de l'adoration. La vertu infuse de religion posera aussi un acte d'adoration. Hein? Mais l'adoration ne sera pas vécue de la même manière. Est-ce que la vertu infuse, c'est adorer en esprit et en vérité? Je crois qu'on peut dire c'est l'adoration en esprit et en vérité. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'une adoration en esprit et en vérité uniquement au niveau de la vertu acquise de religion. Tandis que la vertu infuse, je crois qu'on peut dire c'est l'adoration en esprit et en vérité. Je prends exprès le texte, puisque c'est le texte qui nous est donné dans l'Écriture. Qu'est-ce que ça veut dire, adorer en esprit et en vérité? Ça veut dire que l'adoration est ordonnée à notre Père, à Bob, comme Abba, c'est le Père vu en tant qu'il nous sauve par son Christ. N'est-ce pas ? Donc, la finalité surnaturelle est immédiate. Et parce que la finalité surnaturelle est immédiate, la ratio formalis de l'objet de la vertu infuse de religion n'est pas la même que la vertu de religion. Vous voyez ? Parce que c'est l'amour qui ne joue pas de la même manière quand c'est un amour qui se porte sur la fin naturelle ou sur la fin surnaturelle. Et donc la ratio formaliste est distincte. Donc on est bien d'accord. Tandis que quand il s'agit, et c'est ça qui est délicat, quand il s'agit de la vertu, donc l'habitus de sagesse, acquis. Et l'habitus infus de sagesse. L'objet, donc c'est la contemplation. C'est la contemplation. La raison formelle sur laquelle je contemple dans l'habitus acquis de sagesse, c'est toujours par un effet, que je n'ai pas une contemplation directe de Dieu, C'est toujours par un effet. Cet effet, qu'est-ce qu'il est? Cet effet, il me semble que c'est l'ordre du monde ou l'amour que je peux avoir par rapport à un ami. Ce sont les deux effets les plus profonds. C'est par les effets par lesquels j'atteins Dieu. Alors l'ordre du monde et puis l'amour d'amitié. L'amour d'amitié en dépassant l'ami, voyez, en considérant que l'ami est pour moi le tremplin pour contempler Dieu. Parce que par l'amour d'amitié, je suis en présence d'un effet qui vient de Dieu. Voyez, c'est l'amour de Dieu dans ce qu'il a de plus fort, et c'est la lumière de Dieu qui m'est donnée dans l'ordre du monde, qui me permet de contempler le Créateur. Dans la vie, tout ça influe de sagesse. Alors, je contemple, oui.
Il y a aussi un habitus acquis au niveau théologique. C'est peut-être ça qui manque et qui n'est pas nécessaire. Un habitus
acquis. C'est peut-être ça.
Acquis au niveau théologique a déjà un autre objet.
Entre les deux, c'est ça.
Et dans la prima passe, la première question sur la doctrina sacra, quand saint Thomas regarde si elle est une sagesse, on lui oppose une sagesse qui vient directement de Dieu. Il dit il y a deux sagesses. Il y en a une qui est acquise par mode de connaissance, et l'autre, c'est le don du Saint-Esprit. Il ne parle pas d'une autre sagesse.
Sagesse, je sais. Comme ça, ça ne peut pas dire. Hein. Il n'en parle
mais,
pas.
Oui, non, mais pas.
Vous avez le droit de nous poser la question.
Mais par rapport, parce que la vertu infuse, elle est nécessaire pour aider, comment dire, parce que les vertus théologales me donnent des principes, elles ne suffisent pas à ordonner tout l'homme.
Exactement, c'est parce que c'est comme le rayonnement des vertus théologales et de la charité sur le reste. Alors, est-ce que l'intelligence, n'a pas besoin de ce supplément?
Comme la foi est reçue dans l'intelligence et qu'elle permet le développement d'une sagesse acquise, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une sagesse infuse? Il ne semble pas.
Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de faire la théologie, est-ce que de fait, il n'y a pas ces grâces? Moi, je vous voyez une scène de triple de ciel, par exemple. Non, oui, c'est peut-être ce qu'il y a de ciel, mais c'est les dons du Saint-Esprit, c'est un mot sapiens. Pour la scène de triple de ciel,
on cherche un métaphysique entre le naturel et le surnaturel, le don du Saint-Esprit, au point de vue de la. Est-ce que dans cet ordre d'intelligence, ça ne peut pas être le don de science? Parce que de
fait. Ça se montre. Je viens de vous dire.
Non,
c'est, moi je crois plus la question, c'est l'habitus acquis. Alors c'est là le point de vue très délicat entre les deux. Parce qu'il y a sûrement, vous voyez, habitus acquis de sagesse, habitus infus de sagesse, point d'interrogation, habitus infus acquis de sagesse, présupposant la foi. Hein? C'est la théologie. Parce que là, vous avez la théologie. Bon. Cet habitus infus de sagesse présuppose la foi. Autrement, il ne serait pas un habitus infus. Alors, il présupposerait la foi. Donc, c'est du côté de la sagesse théologique qu'on peut se poser la question. Est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait pour ceux qui n'ont pas pu acquérir la sagesse théologique, c'est-à-dire qui n'ont pas pu acquérir l'habitus acquis de sagesse métaphysique, de sagesse philosophique. Hein, c'est ça. Si vous avez la foi, que vous n'êtes pas bête, vous pouvez faire une théologie tout de suite. Mais pour faire une vraie théologie, il faut l'habitus acquis de sagesse. Donc, les suppléances, ne viennent pas du côté de la foi, mais les suppléances viennent du côté de l'habitus acquis de sagesse philosophique. Vous voyez, c'est mon raisonnement. Pas très bien. Je reprends, parce que je crois que c'est quand même, il y a quelque chose qui est particulier. On cherche, hein, je n'ai pas de solution toute faite, je cherche. Il y a l'habitus acquis de sagesse philosophique. Je me pose la question, existe-t-il un habitus infus de sagesse, analogue à l'habitus acquis de sagesse, comme pour les vertus, hein? Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, sur la question posée. Je me pose la question et je dis, à côté de l'habitus acquis de sagesse, il y a un autre habitus acquis de sagesse, qui est l'habitus théologique. Là, on est tous d'accord. Saint Thomas dit explicitement. Bon, l'habitus infus de sagesse, c'est par rapport à la théologie. Donc, il serait pour remplacer les béquilles. Hein, quelqu'un qui n'a fait que très peu d'études théologiques, philosophiques, très peu. Une année saupoudrée, très très peu. Donc vraiment, elle n'a pas un passif, ou il n'a pas un passif. Le curé d'Ars, par exemple, ou je connaissais comme ça un prêtre qui avait fait aussi très peu d'études. Ça peut très bien arriver. Impossible, non, c'est difficile. Mais intelligent, hein. N'ayant pas fait des études, n'ayant pas acquis vraiment l'habitude de sagesse philosophique. Il a une foi très profonde. N'y a-t-il pas à ce moment-là une suppléance d'un habitus infus de sagesse philosophique assumé tout de suite par la foi, donc en vue d'une théologie. Mais cette théologie, vous voyez, elle ne serait pas acquise au sens absolu. Elle proviendrait de ce don d'un habitus infus de sagesse philosophique. Et on aurait quelqu'un qui vous dirait, au point de vue profondeur et de pénétration, des choses qui sont très évidentes, qui ne sont pas du bon. Et qui resterait vraiment au niveau de la sagesse de l'habitus acquis de lui, mais qui aurait quelque chose de très, très, très vraiment un habitus infus de sagesse de lui. Ah, c'est pas impossible. Je ne peux pas dire que c'est impossible. Moi, ça m'est dans ma tête. Et c'est très très intéressant, parce que ça montrerait la grandeur, vous voyez, de l'habitus acquis de sagesse philosophique.
Est-ce que c'est une grâce charismatique ?
Non, c'est pas une grâce charismatique.
Est-ce que c'est de nécessité de salut ?
Ah, c'est peut-être une nécessité de salut, dans le sens que c'est peut-être une nécessité de salut pour quelqu'un. Mais ça, quelqu'un comme Sainte-Catherine de Siena, je ne discute pas sur ses écrits, c'est-à-dire que dans la pénurie d'aujourd'hui théologiens. Ah, c'est pour elle aussi. Ah, c'est pour elle aussi. La sagesse philosophique, vous êtes quand même un petit peu. Alors vous diriez que quelqu'un qui n'a pas pu l'acquérir, il sera privé de ça. Dieu peut lui donner. Quelqu'un d'un très très intelligent, parce qu'il y a une intelligence très pénétrante, a besoin d'une certaine sagesse, acquise théologique. Ah oui, il en a besoin pour une purification qui permet d'avoir comme une espèce de rayonnement de sa foi sur son intelligence. Pas uniquement au niveau, et puis surtout pour la communauté d'autres. Pour la communauté aux autres, c'est très important. La communauté, c'est charismatique pour la communauté aux autres. Pas uniquement, c'est par rapport à soi pour le communiquer aux autres, puisque c'est de l'ordre de l'intelligence. L'intelligence, pour être communiquée aux autres, demande d'abord qu'on assimile, bien d'abord écouter comme la laisse de l'art. Alors c'est autre chose, mais il me semble qu'il y a une possibilité. C'est pas commode à bien placer, bien situé. Oui. Quasi-théologique, qu'est-ce qui manque ? Oui. Et doctrinal, il y a un contenu de distinction de théologie très très fort.
Et qu'elle ne pouvait pas connaître.
Oui, et qu'elle ne pouvait pas connaître par elle-même. Et que personne ne lui enseignait. Oui. Alors vous allez me dire que c'est charismatique. Ce n'est pas tout à fait charismatique. Ce n'est pas la même chose que les charismes. C'est autre chose. Mais c'est un cas plus répandu qu'on ne le pense. Et moi, je le vois très fort aujourd'hui. Parce qu'au fond, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu une formation théologique comme elles auraient pu la recevoir. Et on a l'impression qu'il y a un habitus, un flux de sagesse. Oui. Oui.
Et dans le second cas, il donne l'exemple de la sagesse et de l'intelligence, mais c'est l'esprit de sagesse et l'esprit.
Oui, donc c'est le don.
Ce sont les dons.
Oui, mais c'est pour ça que je me pose la question, y a-t-il quelque chose entre les deux ?
Est-ce que ça suffit pas ?
Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le don de sagesse va un peu télescoper tous les moyens termes. Mais, tandis que dans l'habitus acquis de sagesse, il y a un mode humain qui est respecté et qui permet un jugement de sagesse. Mais autrement, il y a une métaphysique présente. Alors je crois que le don de sagesse est au-dessus. Le don de science, c'est toujours la différence entre la sagesse et la science. Le don de science n'est pas intermédiaire, le don de science est au même niveau que le don de sagesse, parce que tous les dons du Saint-Esprit sont comme l'être.
Oui, mais il assume un mode d'intelligence qui est inférieur au don de sagesse.
Mais science, il n'a pas un mode de sagesse. Or, ici, je cherche l'habitus infus de sagesse.
On cherche un écart entre ces deux modes de connaissance.
Non, je vais être au niveau de sagesse.
Sagesse au niveau
du cœur.
Moi, le don de sagesse, c'est l'intelligence au niveau de
l'intelligence. Vous voyez comme c'est pas commode. Hein. Quoi? Non, le don de science est au niveau. Alors, c'est n'est pas le même. C'est pas le même intermédiaire. La science nous fait connaître les principes propres. Et la sagesse nous fait juger de toutes choses par un principe multiple.
La science nous fait atteindre des conclusions à la lumière des
Et la sagesse regarde les mêmes conclusions, peut regarder les mêmes conclusions, mais dans un autre mode. Par exemple, je prends un exemple très simple. Dans tout être créé, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Et ça, c'est une conclusion de sagesse. Ce n'est pas une conclusion scientifique. Je ne trouve pas, parce que saint Thomas distingue très nettement le don de science du don de sagesse. En voyant justement que le propre de la science est de vous donner les principes propres.
Et à partir du moment où on est dans le don de science, ou même dans le don de sagesse, on va le voir à partir de la lumière de la charité, de l'amour. Et bien même si la conclusion est la même, la ratio est la même. Et donc l'habitude est différente, puisque l'habitude de l'intelligence se distingue de la lumière. Parce que ce n'est pas une dérive, il faut dire qu'en fait, l'habitude se. Acquis de théologie suffit à expliquer ce que ça fait.
Oui, je suis disant. C'est la suppléance.
Voilà, cette suppléance n'étant pas un effet nécessaire de la grâce.
Alors, vous pouvez me dire que cette suppléance, au fond, est en charismatique.
Peut-être pas.
Là, je suis d'accord. Le gros question, c'est savoir si c'est charismatique. C'est dans le charismatique. Alors, est-ce que ce sera à ce moment-là non plus du tout de l'ordre de la grâce sanctifiante, mais charismatique? Alors, ça me gêne beaucoup. Parce que la sagesse ne me semble pas charismatique.
Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire que c'est un.
Sauf que ça vous a fait
une grâce qui conforte l'intelligence humaine, qui est affaiblie dans son exercice, pour lui permettre d'atteindre des conclusions que naturellement elle est capable d'atteindre.
Et à partir de conclusions qu'on doit atteindre naturellement.
Voilà, donc c'est une grâce qui reste
une suppléance.
Un secours divin. Bon, par exemple, Analope est celui qui aurait pu être accordé à des païens qui ont découvert la vérité. Donc, ce n'est pas, au sens strict, un effet propre de la grâce sanctifiante comme le sont les versions infuses. Pourquoi ? Parce que nous sommes sauvés par la charité.
Je serais assez d'accord avec ça, parce que justement, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas la même chose du tout quand on est du côté affectif, où la finalité, la fin ultime est beaucoup plus immédiate. Tandis qu'ici, c'est plus de l'ordre de suppléance, mais qui peuvent donner un certain habitus, un flux suppléant. Alors, c'est entre eux, si vous voulez. C'est une zone particulière. Ce serait entre eux les charismes, parce que ce ne serait pas donné uniquement pour les autres comme les charismes. Ce serait quand même pour éclairer, purifier l'intelligence de celui qui la reçoit, purifier l'intelligence et l'imagination, et puis capable de la communiquer aux autres. Donc c'est entre les deux. Et c'est l'ordre de l'intelligence, ça qui est très curieux. C'est l'ordre de l'intelligence. Alors, ce serait quelque chose. Parce que c'est moi, je vois toujours dans l'ordre de la suppléance. Oui. Alors, dans l'ordre de la suppléance, je sais bien, c'est pas la même chose que les vertus infuses. Les vertus infuses sont données directement par la charité. Et en vue de la fin surnaturelle. Et l'exercice surnaturel. Tandis que là, c'est de l'ordre de l'intelligence qui a besoin de cela et d'une certaine contemplation naturelle. Comme si Dieu avait besoin que l'intelligence humaine atteigne jusqu'au bout. C'est ça qui frappe. Oui.
Quand on voit l'assistance que l'Esprit Saint peut donner même aux théologiens eux-mêmes, et l'assistance que l'Esprit Saint donne aux pères conseillers pour dire certaines choses, je ne sais pas, quand on voit l'assistance que les pères conciliaires ont apporté à toute la sagesse philosophique, alors qu'il y en a très peu qui finalement l'avaient cultivée. Non, mais c'est vrai, concrètement, la sagesse métaphysique, elle était peu développée.
Non, charismatique du concile, on a besoin de ça, et ils en ont besoin.
Mais par rapport à la faillibilité pontificale, est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi?
Vous avez reçu un habitus infus, vous avez reçu un habitus infus métaphysique de sagesse philosophique. Je crois qu'il y a des choses comme ça quand on sait. Vous savez, on a dit lui-même, je n'ai pas fait suffisamment métaphysique. Et on sent l'insistance. Quand on voit Paul VI, c'était très très net. L'insistance de Paul VI sur la métaphysique. L'insistance, de cette façon-là, pour toute une année, il a parlé l'exigence de voie d'accès du monde de Dieu. Alors, c'est très net, tous ceux qui connaissent le monde, il n'a fait très très peu d'études, il n'a pas pu.
Marita est très directe.
Quoi ?
Dans la lumière de Marita, ça va très vite.
Oui, c'est pas dans la lumière de Marita que ça va
vite. C'est comme toi qui parlais. Oui.
Parce que dans la lumière de Marita,
la vie de l'intelligence, c'est quand même nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout.
C'est nécessaire pour la vie de l'intelligence. Oui, mais alors on peut dire, vous voyez, c'est toujours ce qu'on dira, c'est que la fin surnaturelle permet de télescoper la fin naturelle.
Non, c'est très dangereux.
Oui, parce qu'alors on se casse la jambe. et c'est vrai d'une certaine manière, je suis d'accord que c'est très dangereux et que c'est pour ça que sans doute, parce que ça me frappe beaucoup, et ça me frappe spécialement actuellement, comme si au fond il y a une pénurie de l'habitus acquis de sagesse, on est tous d'accord, et qu'alors il y a comme un rappel, et ce rappel se fait par mode de suppléance de cette manière-là. Alors, quand on dit que c'est charismatique, ça me gêne un peu, parce que le charisme ne perfectionne pas la personne, alors que là, nettement, ces personnes sont perfectionnées par ça, elles-mêmes. Alors, c'est ce point de vue de l'intelligence humaine qui a besoin d'atteindre sa fin pour être plus immédiatement sanctifiée.
qu'en fait, l'absence de l'habitude de sagesse n'est pas comme telle, de la sagesse naturelle, n'est pas comme telle un obstacle à la contemplation, mais plutôt ce qui se passe dans le monde actuel, c'est que la pensée s'oppose à une vision. Et donc c'est en sens là que lumière.
C'est la purification. On a toujours dit que si nous faisions de la métaphysique, c'était pour purifier notre intelligence.
Donc quelqu'un qui n'a pas fait d'études, mais qui reste qu'il y a une intelligence saine en soi, n'a pas d'obstacle à la contemplation. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit dans le monde actuel.
Non, là, il y a l'obstacle à la contemplation, mais seulement il reste toujours en vrai que l'intelligence humaine a besoin d'atteindre sa fin. Elle a besoin d'atteindre sa fin. C'est assez vrai. Ah, je ne dis pas que c'est nécessaire pour tout le monde, mais pour l'Église.
Pour l'Église, c'est ça.
Pour l'Église, c'est autre chose. Ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Tout le monde n'a pas nécessité de faire une vie grâce à Dieu. Mais pour l'Église et pour l'humanité, il faut que l'homme, dans son intelligence, maintienne la métaphysique. Vous voyez, c'est toujours ce que dit le Saint-Père, moi ça me fera beaucoup. Il faut maintenir dans l'Église la sagesse. Il faut la maintenir. Il dit parce que si elle n'est plus là, la philosophie, la théologie n'y sera plus. C'est un fait qu'aujourd'hui. Alors, on comprendrait assez bien ces suppléances qui c'est comme des rappels. Vous voyez ? Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors évidemment, c'est entre les deux. C'est ça qui est très difficile à voir, parce que c'est entre le charisme et les vertus infuses. Alors, je peux peut-être, vous voyez, vous servir des deux analogies. Pour essayer de comprendre ce qu'il y a de tout à fait particulier, ça serait très intéressant, tout à fait particulier de cette habitus infus de sagesse. Il y a quelque chose de tout à fait particulier qui est de sagesse philosophique. Oui.
Oui. Quand on parle de l'assistance du Saint-Esprit pour tous les articles de la Sainte Théologie de Saint-Thomas, quand on a une vision.
Mais ça, peut-être, ça, on peut peut-être dire que c'est plus. C'est plus, peut-être.
C'est purement acquis ou est-ce qu'il y a une assistance expresse du Saint-Esprit tout du long qui fait que. Parce que pour arriver.
De temps en temps, des articles vous attendent.
Je sais plus, je sais pas. Ce que je me demande, c'est si un homme. Vous voyez, pour que l'intelligence de Saint-Thomas ait pu aller si loin et oui. D'une manière aussi structurée et si ordonnée.
Oui.
Et à partir quand même d'un matériau qui était tout l'enseignement qu'il avait reçu, qui était très épars,
oui.
Et qui n'avait pas du tout cette structure-là. Et en si peu de temps, c'est quand même assez étonnant.
Oui, sûrement.
Vous pourrez l'intelligence purement.
Oui, c'est du responsable des papes, ont dit ça, qu'il y avait une assistance spéciale du Saint-Esprit. Alors est-ce que cette assistance spéciale du Saint-Esprit, c'est cet habitus infus de sagesse
qui conforte l'exercice de l'intelligence qui normalement ne pourrait pas
être. Et Saint-Thomas, on voit un degré de pénétration de sagesse philosophique très différent. Bon. On laisse au moins son point d'interrogation. C'est intéressant. C'est intéressant de se poser la question parce que je crois que c'est très actuel. Et que vous verrez ça. Moi, j'en suis sûr. Que c'est très actuel, ça. Ça me frappe beaucoup. C'est pour ça que du reste je me suis posé la question. Vous comprenez bien si c'est. Bon, effectivement, ce n'est pas la question. Et on sent actuellement comme une suppléance à cause de ce vide de la sagesse acquise philosophique. Bon. Je crois que nous avons précisé suffisamment. Le métaxu sous lequel nous pouvions parler d'une contemplation philosophique, le point de vue d'un effet créé que l'intelligence humaine peut saisir par le point de vue dans le prolongement de l'expérience externe et du prolongement de l'expérience interne. Puisqu'il y a deux voies d'accès vis-à-vis de Dieu, la voie externe et la voie interne, il est normal qu'il y ait deux métaxus, l'un externe et l'autre interne. Et c'est pour ça que je mets l'ordre du monde. et l'ordre qui existe dans la personne humaine, c'est l'ordre humain et l'ordre de la personne, ça c'est le métaxu externe, et le métaxu interne, c'est l'amour d'amitié. Vous voyez ? Il y a les deux voies. C'est pour ça que je crois que dans le point de vue de la contemplation à l'égard du Créateur, de Dieu Créateur, il y a ces deux métaxus, l'ordre du monde et l'ordre de la personne humaine. La personne humaine étant en petit le monde, n'est-ce pas ? Et pour nous, nous insisterions plus sur l'ordre de la personne. Puisque l'ordre du monde, en définitive, est ordonné à la personne humaine. Et donc c'est l'ordre de la personne humaine, cette unité profonde qui existe dans la personne humaine, dans cette complexité si grande. On voit cette complexité, on voit cette unité. Et on peut dire qu'à partir de là, il y a une contemplation du Dieu créateur. Et l'autre, par le point de vue de l'expérience interne, l'amour d'amitié, qui fait que l'homme est capable de se dépasser pour rejoindre l'ami. Et que l'ami est comme un tremplin qui nous permet de découvrir le Dieu amour. Donc il y aurait la contemplation du Dieu lumière, et la contemplation du Dieu amour. Et les deux métaxus différents. Oui. Il a tapé virtuellement. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez